Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce lieu de culte. La lumière brille dehors. Je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous avançons vers Noël. Alors, deuxième dimanche de l'Avent égale deuxième bougie. Mais rien n'est allumé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire bougie, allume-toi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui dit que la lumière soit et la lumière est. C'est Dieu. Et venir au culte, c'est déjà reconnaître que nous ne sommes pas Dieu et que nous sommes des créatures devant leur créateur. Alors comment on va faire? Moi je crois que ce qu'il nous faudrait, c'est une source de lumière. Est-ce que tu irais chercher la lumière là-bas? Voilà, tu avances. Hein, ouais. Attention. Ouais, voilà. Voilà. Et tu peux allumer. Vas-y, allume celle-ci là, tu vois, elle a déjà été, c'est la première. Voilà, très bien. Et tu peux allumer la deuxième, tu peux choisir laquelle. Très bien, merci. Tu as allumé les deux bougies de l'avant. Nous avons besoin de nous approcher d'une source de lumière. Et la Bible nous dit que Jésus est la véritable lumière. Et vous avez vu que transporter la lumière, ce n'est pas une chose évidente. Il ne faut pas aller trop vite, il faut faire attention, il faut être précautionneux. Et la transmettre à l'autre bougie, c'est aussi toute une... Ça demande du tact, de la finesse, de la précision. Oula, elle cale un peu, dis donc. Et il est demandé aux chrétiens d'être lumière du monde. C'est pour ça que le culte, c'est aussi de nous approcher de celui qui est la vraie lumière pour pouvoir être à notre tour lumière du monde. Je vous souhaite un bon culte ici aujourd'hui, ce matin.
Lumière du monde, Psaume 23 est un psaume très bien connu. Les psaumes, c'était le recueil de louanges de l'Église primitive ainsi que du peuple de l'Ancien Testament. Nous allons donc chanter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, ô mon âme. Pas à pas, c'est lui qui me conduit. Il me conduit au bord des eaux calmes. Je le suis, ô mon âme. Chante, mon âme.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis, ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et ma grâce m'accompagneront. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, dont rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
De manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu majestueux. C'est grâce à ce que fait le Fils que nous pouvons aujourd'hui adorer Dieu. Jésus aussi instruit, enseigné ses disciples à prier le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à ce temps de Noël, nous voulons prier pour que le royaume de Dieu puisse se manifester, que les gens qui se heurtent contre le message de Noël puissent vraiment rencontrer ce Jésus qui est venu, qui est ouvert, qui a payé le prix, qui aujourd'hui est à la droite de son Père. Nous voulons l'acclamer, nous voulons prier pour que son royaume vienne. Notre Père qui es aux cieux.
Notre Père qui es aux cieux,
see you.
Voilà, nous arrivons maintenant au moment, dans le culte, au moment de l'enseignement. Alors, il va y avoir un enseignement pour les enfants qui sera fait pour vous et un enseignement pour nous adultes. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, que nous soyons grands ou petits, que nous soyons des enfants ou des adultes, nous avons besoin, il nous est nécessaire que tu nous parles. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Alors les enfants, vous pouvez maintenant descendre et rejoindre vos groupes. Et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est réglé le problème avec la garderie? Ou est-ce qu'il faut que quelqu'un aide, tu sais? Bon, comme personne ne s'est manifesté, on pense que le problème qu'il y avait à la garderie, où il manquait une personne qui était malade ce matin, on espère que tout est sous contrôle. Voilà le texte qui sert de base à la prédication que Philippe nous apporte ce matin. C'est dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, les versets 4 à 6. Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, Père ».
Bonjour à chacun, chacune. La règle de base pour comprendre un texte de la Bible, c'est de lire ce texte dans son contexte. Je crois que lire un texte dans son contexte, cela évite bien des mauvaises interprétations. Le texte et le contexte. Ce n'est pas parce que la Bible est inspirée que nous pouvons simplement en prendre de petits bouts pour en faire ce que nous voulons. Quand on lit la Bible, quand on y réfléchit, quand on la médite, il me semble que quelques prudences sont nécessaires, parmi lesquelles la prise en compte du contexte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce court passage dont nous venons d'entendre la lecture ? Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfant adoptif de Dieu. La Bible à la colombe traduit encore plus succinctement. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. C'est encore plus court. Voilà donc un passage qui cite un écrit de l'apôtre Paul. Cet écrit, c'est l'Épître aux Galates, la lettre qu'il envoie aux chrétiens de Galatie. Ce n'est pas directement en rapport avec Noël, mais c'est en rapport, avant tout, avec une controverse qui secoue ces chrétiens de l'an 49 de notre ère. Pour eux, le problème est le suivant. Dans la culture juive de l'époque, les Grecs et les Romains, ce sont des païens, des gens impurs. Il ne faut pas manger avec eux, il ne faut pas célébrer avec eux, il ne faut pas travailler avec eux, on les tient à l'écart. Pour les Juifs de l'époque, les Grecs et les Romains sont des gens impurs. Mais comment faire ? Comment faire quand un juif pieux se convertit à Jésus-Christ et se retrouve côte à côte avec un grec converti ou un romain converti. À partir de là, certains chrétiens ont compris qu'en Christ, il n'y avait plus ni juif ni grec, et qu'ils pouvaient donc manger ensemble, célébrer ensemble, faire des affaires ensemble. Certains avaient compris qu'il n'y avait plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, que les différences raciales, que les différences genrées, à cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, étaient des différences abolies. Mais d'autres chrétiens, en restaient à une position plus traditionnelle. Pire, ils exigeaient que les Grecs se convertissent au judaïsme, qu'ils respectent la loi de Moïse à la lettre, et pour commencer, qu'ils se fassent circoncire. Pour commencer, qu'ils observent le sabbat. Pour commencer, qu'ils respectent scrupuleusement toutes les règles régissant le rapport à Dieu et les uns avec les autres. Et c'est là donc que l'apôtre Paul doit expliquer contexte de la lettre aux Galates, que juifs et grecs sont acceptés par Dieu de la même façon. En aucun cas, grâce au respect scrupuleux de la loi, mais par la foi. Christ, nous dit-il, nous a libérés de la loi. La loi ne régit pas notre rapport avec Dieu. Les règles religieuses ne régissent pas notre rapport avec Dieu. Quel pourrait être le problème pour nous ? Eh bien, ce serait l'idée que notre relation à Dieu dépend de l'observance des lois de notre conscience et des traditions religieuses, alors qu'en fait, nous ne les respectons jamais tout à fait. Le bien que je réaliserai parfaitement aujourd'hui n'effacera jamais le mal que j'ai fait hier. Du coup, ma conscience et toute la tradition me condamnent tout autant que la loi de Moïse. Que faire ? D'ailleurs, en devenant chrétien, j'ai commencé à découvrir la Bible. Qu'est-ce que je vais faire quand je lis ma Bible dans l'Ancien Testament ? Quel est mon rapport à ces vieilles pages ? « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », dit le Lévitique déjà. Ça va, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », bien que... Mais ça va. Mais ne pas manger de porc ou de crustacés, c'est plus compliqué. Porter des vêtements d'une seule pièce, sans tissu mélangé, c'est compliqué. Ne pas se tailler la barbe, ce que j'ai fait maladroitement ce matin, c'est compliqué. Ne pas avoir de relation d'aucune sorte avec une femme qui a ses règles, ne pas même la toucher, c'est compliqué. Quel est mon rapport avec ces vieilles pages inspirées de l'Ancien Testament ? Je ne sais pas quoi faire de la loi de ma conscience et je ne sais pas quoi faire de la loi de Moïse. Paul dit que juifs et non-juifs ont été libérés de la loi par Christ. Comment ? Comment est-ce que Christ nous a libérés des contraintes de la loi, que ce soit la loi de la conscience ou la loi de Moïse ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. En regardant, je vous propose simplement les phrases clés de notre texte de ce matin. Et pourtant, Thierry est là. T'arrives à m'envoyer le deuxième, Thierry ? C'est pas grave. Quand le moment fixé est arrivé, il a envoyé son fils. La Bible à la Colombe dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils. » C'est la fin d'une époque, on pourrait dire. Mais il y a plus que cela. Parce que l'accomplissement des temps relève de la souveraineté de Dieu, de la chronologie de Dieu, de la pédagogie de Dieu, du plan de Dieu. Et si vous aviez assisté ici ou ailleurs à un culte du temps de l'Avent, vous avez certainement entendu des lectures bibliques tirées de l'Ancien Testament qui disent que le Sauveur, le Messie, le Roi doit venir, que petit à petit la lumière se fait sur ceux qui marchaient dans l'obscurité, qu'un jour un Sauveur naîtra d'une femme. Ces prophéties disent que le plan de Dieu est en marche sur des siècles, depuis des siècles. Le plan de Dieu est en marche. Dieu n'a jamais rien lâché depuis le premier jour de la création. Il n'a pas perdu pied, il n'a pas été dépassé par le péché. Le plan de Dieu est en marche. Quand je regarde la société dans laquelle nous vivons, je me rends compte qu'on pourrait penser avec l'un des personnages de Shakespeare, Macbeth, que la vie des hommes est une histoire racontée par un idiot rempli de bruit et de fureur qui ne signifie rien. Je me rends compte que des fois on pourrait penser ça, que tout ça est futile, qu'on va dans le mur, qu'il n'y a rien qui ne peut rien rattraper. Mais la Bible enseigne la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu qui conduit les événements, même si leur sens nous en échappe. Alors pourquoi est-ce que Jésus est né à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que Jésus est né juste avant la mort du roi Hérode le Grand ? Et pas un siècle plus tard ou un peu plus tôt ? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un passage dans le livre de Daniel prédit peut-être la date de la naissance du Messie. Mais ce texte ne fait pas forcément partie de nos lectures habituelles de Noël, un texte mystérieux, le Fils de l'homme qui doit venir. Je dirais donc que le choix de la date appartenait à Dieu et que nous devons peut-être apprendre à nous en tenir à ça. Et pourtant, les circonstances de l'époque étaient particulièrement favorables. Pour parler familièrement, il y avait une opportunité à saisir, un alignement de planètes. Prenez les Juifs. Chez les Juifs, l'attente du Messie, elle était vive, au point qu'elle suscitait régulièrement des énergumènes qui se prétendaient Christ. Les membres de la communauté établie au bord de la mer Morte, à Qumran, les membres de cette communauté espéraient un Messie libérateur et un Messie qui les purifie de leurs péchés, deux pour le prix d'un. Chez les Juifs, les temps étaient mûrs quand Jésus est apparu. Chez les Grecs et chez les Romains, la religion traditionnelle à ce moment-là était comme jamais en perte de vitesse. Qui pouvait réellement croire encore à Vénus, à Bacchus, à cette espèce de Dallas ou de Game of Thrones céleste dont parlait la mythologie ? Les gens sérieux n'y croyaient plus. Ils faisaient semblant, comme nous faisons semblant aujourd'hui encore avec le Père Noël. Et en même temps, ils cherchaient ailleurs. Ils cherchaient dans la philosophie, ils commençaient à chercher dans les religions orientales. Ils attendaient autre chose, sans le savoir. Et si Jésus était né en Australie ? ou en Nouvelle-Zélande, au milieu de petits clans parlant une multitude de langues différentes, sur un continent sans route ni écriture. Mais il est né dans une région où il y avait des routes partout, où il y avait une seule et même langue, le grec, que l'on parlait tout autour de la Méditerranée, comme on parle aujourd'hui l'anglais dans le commerce. La paix romaine régnait de l'Afrique du Nord au Danube et de l'Arabie jusqu'aux frontières de l'Écosse. Pour que l'Évangile retentisse au loin et rapidement et sans Internet, les temps étaient mûrs. C'était le moment. Lorsque le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Ça va, vous êtes à l'aise avec ça, vous ? Dieu aurait un Fils ? Comme le Dieu Zeus, qui a fait un enfant à la belle Alcmène quand son mari était parti à la guerre. Jésus, ce serait comme Hercule. D'ailleurs, dans le récit mythologique, Zeus, il fait 8 enfants à 5 femmes humaines. Les dieux s'amusent bien, hein ? Mais non, c'est pas ça, bien sûr, c'est pas ça. Bien sûr que c'est pas ça. Nous disons avec les Écritures que le Fils était auprès du Père avant d'être envoyé sur terre. Nous ne sommes pas dans le monde gréco-romain, nous sommes dans l'univers juif. Dieu n'a pas de femme. Il y a un seul Dieu, pas 3 ni 36. Et en même temps, nous devons avouer, reconnaître, accepter qu'il y a une complexité en Dieu qui fait que nous pouvons parler de l'expression de sa personne, Hébreux 1, verset 3, de sa parole, Jean 1, 1 à 18, de son image, Colossiens 1, verset 15, de son alter ego, de son propre Fils qui était au commencement avec Dieu, qui est Dieu, qui était lui-même Dieu. Jean 1, verset 1. Une complexité en Dieu. Ça, nous devons le tenir en équilibre dans notre foi. Dieu est complexe. Ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé. Ce n'est pas un messager que Dieu a envoyé. Ce n'est pas un hologramme que Dieu a envoyé. C'est sa propre personne qu'il est venu projeter sur terre. C'est dire ce qu'il a consenti et l'immensité de son amour pour des humains rebelles tels que nous. Il a projeté sa propre personne. Nous étions quelques-uns hier matin pour revisiter la remarquable exposition Dieu mode d'emploi, Alcet Palexpo à côté de l'Arena. C'est fini en janvier, courez-y si vous ne l'avez pas vu encore. Et pour cette deuxième visite, une des choses qui m'a profondément saisi, au-delà des images, des beaux textes, des magnifiques vidéos, de la pièce de théâtre bouleversante qui est jouée, c'est de voir cette somme, cet amalgame, cette quantité de tentatives dans l'histoire du monde, dans toutes les cultures, pour atteindre Dieu. Ça passe par des réflexions, ça passe par des habits, ça passe par des rites, ça passe par des sacrifices. On parlait tout à l'heure d'une de ces images qui nous marquent où on voit se faire au Sri Lanka un homme qui est pincé de partout et tenu en équilibre comme ça parce qu'il pense se rapprocher de Dieu. Et ne soyons pas trop sévères à l'encontre des autres religions. Nous, chrétiens, y compris chrétiens évangéliques, pensons encore trop souvent que nous pouvons atteindre Dieu par ce que nous faisons ou par ce que nous ne faisons pas. le pivot de l'histoire. C'est Dieu qui se projette sur terre. Pas Dieu qui dit « Attendez, venez, montez, faites des trucs pour voir ce dont vous êtes capable. Bandez vos muscles, musclez vos voix. Allez-y, allez-y, allez-y encore, montrez-moi ce que vous pouvez faire pour m'atteindre. Vous ne m'atteindrez jamais, mais montrez-moi un peu. Qui est le plus fort? Qui va le plus vite? Qui va le plus loin ?» Le pivot de l'histoire, c'est que Dieu lui-même se projette sur terre, dans la personne de Jésus, son Fils. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme. Mais attendez, tout le monde est né d'une femme. Pourquoi faut le dire ici? Parce qu'avec Jésus, c'est stupéfiant. Le Fils de Dieu n'est pas apparu comme un ange, il n'est pas apparu comme un extraterrestre, il n'est pas apparu comme un dieu romain ou hindou, il est né, comme tout le monde. Conçu du Saint-Esprit, certes, mais né d'une femme. C'est encore plus stupéfiant si nous nous mettons quelques instants dans la peau d'un philosophe grec de l'époque. La matière, le corps, toutes ces choses qui périssent, c'est mauvais pour lui. Il faut s'en libérer du matériel. Mais Dieu dit non, non. Le Fils de Dieu est né d'une femme. Né d'une femme. Nous le savons, dans une étable, dans une petite ville, Marie a donné naissance à Jésus. Quelle femme ? Ben, Paul ne le dit pas ici. Il ne se donne même pas la peine de nommer Marie. Dans le credo, un peu après Paul, on dit « Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. » Au bout d'un certain temps, Marie occupera la place la plus importante dans les tableaux de Noël et il y a de quoi lui donner une place. Mais ici, elle est anonyme. Parce que le point de mire de l'apôtre est ailleurs. Le point de mire de l'apôtre, c'est Jésus. Né d'une femme, comme tout le monde. Et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Né d'une femme, né sous la loi. Comme tout le monde encore. Comme tout le monde. Il n'existe pas d'être humain qui naisse sans être soumis, d'une manière ou d'une autre, aux lois d'un clan, aux lois d'une tribu, aux lois d'un pays, aux lois d'une famille, aux lois d'une culture. Et pourtant, ici, ce n'est pas tout à fait comme tout le monde, parce qu'il s'agit de la loi de Moïse. Cette allusion nous rappelle que Marie était juive, que Jésus était juif. Et il n'y a pas si longtemps, il était choquant de dire que Jésus était juif. Mais nous devons le dire aujourd'hui. Peut-être plus fort que jamais depuis la dernière guerre mondiale. Nous devons le dire aujourd'hui. Fort. Jésus était juif. Nous avons envers le peuple juif une dette inestimable. Il nous a donné la Bible. Et il nous a donné le Christ. En naissant dans un milieu juif, Jésus a pris sur lui ce que l'on appelait le joug de la loi juive, la dureté de la loi juive, c'est-à-dire l'obligation de la respecter, d'obéir à tous ses commandements. Il est d'ailleurs le seul à y avoir obéi parfaitement, pas seulement à la lettre de la loi, mais à son esprit, à son intention. Pour le condamner à mort, il faudrait trouver des prétextes parce que Jésus n'avait pas dévié de la loi d'un pouce et ses ennemis le savaient bien. Il est né pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, soumis à ce régime de la loi. Paul ne parle pas de la loi de Moïse seulement pour dire que Jésus était juif et qu'il a respecté scrupuleusement la loi de Moïse. Il le dit pour nous dire que Christ nous a libérés de la loi. Nous. Nous tous et toutes. Dans la mesure où nous oserions encore penser aujourd'hui que juifs et non-juifs doivent se soumettre à la loi, que les chrétiens évangéliques doivent se soumettre à la loi. Et en même temps, quand je lis ça, je me pose une question. Pourquoi avoir tant besoin d'être libéré d'une loi que Dieu lui-même a créée, que Dieu lui-même a voulu? À l'époque de Jésus, bon nombre de Juifs pensaient que la loi était le moyen ultime pour être en règle avec Dieu, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Et ils se trompaient. D'où venait leur erreur? Eh bien, c'est qu'ils étaient nombreux à suivre une stratégie qui leur permettait de définir le péché, puis ensuite de le minimiser. Première étape, énumérer toutes les lois de Moïse. Résultat, 613. Deuxième étape, créer autour de ces lois une marge de sécurité, les interpréter de façon la plus large possible. De cette façon-là, si on mordait sur la ligne jaune, on ne traversait pas la ligne rouge. Troisième étape, s'en tenir à la lettre de la loi, ne pas s'occuper de son intention profonde, ne pas s'occuper des pensées, mais seulement des actes. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dénonce de toutes ses forces cette façon de faire. Avec cette stratégie-là, il était possible d'imaginer qu'on était en règle avec la loi de Moïse, qu'on avait gardé tous les commandements, qu'on était sauvé, mais c'était une illusion. Mortel. Le péché était sagement rangé dans une boîte où on ne comptait pas les fautes d'omission, où on ne comptait pas le bien qu'on a manqué de faire, où on ne comptait pas les fautes commises par la pensée. La grâce de Dieu, le pardon de Dieu n'avaient pas beaucoup de place dans cette stratégie, sinon en complément de nos efforts et de notre piété. Paul le dit clairement, la loi, aussi bonne soit-elle, ne nous sauve pas. Elle dénonce nos manquements, elle les met en évidence, elle prouve que nous sommes des pécheurs, elle nous condamne, nous ne pouvons pas la satisfaire. La loi de notre conscience en fait autant, dira Paul un peu plus tard dans l'Épître aux Romains. Christ est donc venu nous libérer de la condamnation de la loi en subissant à notre place la condamnation que la loi exige. Il nous libère de l'esclavage de la loi et de ses 613 commandements pour nous faire vivre selon l'esprit que nous avons reçu et pour nous permettre de vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je conclus. La naissance de Jésus, Dieu qui se projette sur la terre, c'était déjà en vue de la croix et de la Pentecôte. La croix, la Pentecôte, l'Église, la vie nouvelle existaient déjà en ombre et en lumière autour de la naissance du Christ. La naissance de Jésus, c'était en vue de l'Église et de la multitude de fils et de filles que Dieu voulait s'attacher. Le Fils nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu, comme ses propres fils et propres filles, lui devenant notre frère. Je n'ai pas eu honte de les appeler mes frères et mes sœurs. Une naissance à Noël, c'était pour nous permettre de naître à nouveau. La venue du Fils de Dieu à Noël, c'était pour faire de nous les enfants de Dieu par adoption. Et c'est cela qui nous motive pour adorer, pour aimer, pour donner, pour servir et pour agir. Nous sommes devenus enfants de Dieu. tel fils, tel père, pouvons-nous dire aujourd'hui ? Tel fils, tel père. En Jésus, nous voyons le visage d'un Dieu qui aime les humains et qui a mis un grand projet en route pour les sauver d'eux-mêmes, pour les restaurer et pour les attacher pour toujours à Dieu. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. Et puis, tel père, de tel fils, de telle fille, au pluriel, il nous a adoptés pour que nous lui ressemblions, pour que nous manifestions à notre tour quelque chose de sa bonté, de sa grandeur, de sa grâce et de son amour. Moi, j'ai envie de continuer le chemin de l'avant avec de telles perspectives qui s'ouvrent. Amen.
Jésus est un chant que nous avons chanté, je pense, une seule fois avant, donc c'est assez nouveau pour la plupart d'entre nous. Vous êtes le bienvenu à nous rejoindre pour la première strophe, mais je pense que nous allons le chanter une fois, la première strophe, pour que vous puissiez entendre la mélodie. Et puis vous pouvez nous rejoindre donc, lorsqu'on le reprend. Bientôt
toute éternité.
Nous voilà à la table du Seigneur, où nous rappelons la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Devant ces signes que sont le pain et le vin, je reconnais que je suis capable de trahir, comme Judas. Je reconnais que je suis capable de renier comme Pierre, capable de fuir comme tous les autres et de m'endormir quand mon ami prie et pleure. Aie pitié de moi, Seigneur. La croix me rappelle que, comme Pilate, je suis prêt à bien des compromis boiteux. Que je suis capable de méchanceté comme les passants qui se moquent, capable de cruauté comme les soldats qui frappent. La croix nous met en face de nous-mêmes. Aie pitié de nous, Seigneur. Du pain, Jésus dit, prenez, mangez, c'est mon corps qui est donné pour vous. Jésus se donne pour moi, Jésus se donne pour nous. Du vin, Jésus dit, buvez-en tous, c'est mon sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versée pour beaucoup, pour le pardon des péchés. À la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur. À la croix, Jésus dit, tout est accompli. Christ est mort pour nous afin que nous vivions. Et c'est pour aujourd'hui que le pardon est donné. C'est pour aujourd'hui que le pardon est accordé, pour qu'il nous réveille, qu'il nous relève et qu'il nous redresse. Et ce verset de l'apôtre Paul se déploie comme une fleur. Il s'épanouit ainsi. Christ est mort pour nous afin que nous vivions, que nous soyons vivants ou morts lorsqu'il viendra. Je vous invite à écouter le texte dans Matthieu 26 où Jésus partage le pain et partage le vin. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête et s'en allèrent au Mont des Oliviers.
Nous prions. Alors que nous sommes conscients, Seigneur, d'être chacun, chacune, capable du pire, nous mesurons que toi, tu as donné le meilleur. Merci pour Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre frère. Merci pour la croix, la tombe et la résurrection. Merci parce que nous célébrons ce matin un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est aimant, un Dieu qui est plein de grâce. Merci pour cette table dressée où tu nous invites et nous voulons nous nourrir de ce pardon, de cette grâce, de cette miséricorde, de cet accueil inconditionnel. Nous voulons nous en nourrir pour l'aujourd'hui et le maintenant et nous souvenir aussi qu'un jour nous prendrons ce repas tout près de toi et en présence de tous tes rachetés. Pour la route d'aujourd'hui, cher Seigneur, nous comptons sur tes forces renouvelées, sur tes ressources, et nous nous approchons avec confiance de ce repas que tu as prévu pour que nous le prenions et que nous nous souvenions. Gloire te soit rendue. Amen.
Seigneur, nous voulons te remercier pour le fait que tu es vivant. Merci que tu vis dans notre cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix. Et merci que tu n'es pas resté dans le tombeau, que tu es ressuscité. Que la réalité de ta résurrection puisse être notre témoignage, que tu puisses briller à travers nous, Seigneur, envers ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci parce que tu es fidèle, que nous pouvons nous confier à toi, au nom de Jésus. Amen.
Pendant que nous allons recueillir l'offrande, nous aurons les annonces que Johan va pouvoir nous communiquer.
Bonjour, je voudrais vous présenter la semaine féminine qui est organisée par l'AFRE, qui a lieu toutes les années, la dernière semaine de janvier. C'est une semaine réservée aux femmes de 20 à 70 ans. Une semaine pour faire du bien, pour toutes les femmes qui ont besoin de se poser, de se mettre à côté pendant quelques jours. Pour être consolée, visitée peut-être par Dieu. Il y a toujours un fond spirituel très fort qui permet de grandir, de s'approcher de Dieu. Le thème de cette fois-ci, c'est la prière connectée. Et les orateurs, c'est Gérard et Martine Houreau, avec un invité particulier le mercredi, Pierre-Yves Fallon. C'est vraiment un temps béni de partage, de bricolage, de gymnastique, de sportif aussi, il y a du ski. Et beaucoup de louanges aussi, c'est une semaine du tonnerre, vraiment qui font du bien. À l'époque, il y a eu de nombreuses femmes de notre église qui ont participé. Il me semble que Mérin s'est un petit peu endormie sur ce qui existe. Donc j'ai envie, vous les femmes, de vous réveiller, de vous sensibiliser. C'est une semaine vraiment magnifique qui fait du bien. Donc voilà, il y a des flyers là-bas à disposition. Et si vous avez besoin d'informations particulières, je suis là. Je vous remercie.
Merci Denise. Pour la suite des annonces, donc vous avez vu qu'il y a le stand de livres de la librairie L'Eau Vive, qui sera aussi ouvert après le culte. Ensuite, pour cette semaine, donc le groupe de jeunes qui soit le mercredi, vendredi, le caté, où là, on attend aussi les réponses, c'est juste pour s'inscrire pour le repas, pour tous les participants. C'est un repas de Noël. Repas de Noël, ouais. Ensuite, dimanche prochain à 17h, ici, le concert de psalmodie, une chorale. Le dimanche 22, culte de Noël en famille, ici à 10h. Et puis pour le groupe de jeunes qui fait son camp de ski habituel pendant la période des fêtes, vous avez sur le tableau à l'extérieur des petits feuillets. Si vous voulez participer, amener de la nourriture, prenez un ticket et puis vous pouvez le ramener pour le groupe de jeunes jusqu'au 22 décembre. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Je n'ai encore une de l'AFRE, donc notre fédération d'église, avec ce qu'ils font comme chaque année, l'action de Noël. Et comme on est membre de cette fédération, nous communiquons aussi ces éléments-ci. L'action Noël 2019, nous concerne particulièrement. Il y a 3 sujets, et donc c'est vraiment une action personnelle. Donc la FRI veut que ça soit personnel, que ça soit pas l'Église en tant que telle qui fasse un don, mais que chacun se sente concerné. Et puis il y a 3 sujets, donc c'est à la fois la FRI et puis le SME. Et puis donc il y a sujet pour l'école Une chance pour tous au Sénégal, qui est mis en place par le service de mission et d'entraide, donc SME. Et puis pour la France, ça nous concerne particulièrement puisque ça concerne 2 de nos envoyés. Enfin, il y en a même trois, mais il y en a 2 qui sont nos envoyés. Donc il y en a un, c'est Myriam et André Letzel. Bon, personnellement, je ne les connais pas, mais qui font un service en France. Et puis 2 de nos envoyés qui sont Flavien et Annette Negrini, qui sont donc implantateurs d'églises du côté de Poitiers. Et puis aussi Jean-Marc et Martine Pillou, qui sont à Grenoble. Et donc, vous avez des bulletins, vous avez des petites annonces qui sont, enfin des petits feuillets comme ceci, que vous trouvez sur le panneau avec les bulletins de versement pour faire des dons. Donc c'est vraiment une action personnelle que l'on communique pour chaque membre et pas une action d'église en tant que telle. Voilà.
Je vous invite à la prière. Seigneur, pour ces activités qui viennent nous être présentées, qui sont une expression de l'Église, une expression de ta personne, que nous souhaitons être une expression de ta personne au milieu de la société, nous te prions. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de la capacité pour être vraiment comme Église, comme personne, témoin de ta lumière. Nous te remettons l'argent qui a été récolté pour qu'il soit aussi utilisé avec sagesse. Et nous prions pour ceux qui prennent les décisions. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et on reste dans le contexte immédiat de Galates 4 avec la lecture des versets 6 et 7. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Que nous puissions, les uns et les autres, que vous puissiez vivre de cet héritage pendant la semaine qui s'ouvre. Bon dimanche, allez dans la paix. Amen.